Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Hello, bien. Are you having fun? Are you going to have more fun? All right. So are we. Thank you for being here. I feel like I'm at home. Because I've been here so many times.
La personnalité que nous allons célébrer cette semaine est une grande figure de l'épopée des musiques noires. Pianiste, compositeur, chef d'orchestre, sa destinée a épousé l'air du temps au fil des 6 dernières décennies. Cet octogénaire fringant se joue des conventions, des règles et fait fi des catégories musicales, préférant se laisser porter par ses envies et ses élans créatifs, qu'il évolue dans le jazz, la pop, le funk, les traditions africaines ou la musique classique, il reste un virtuose d'une rare pertinence. Le 12 juillet 2022, il se produisait au Festival Jazz à Vienne en compagnie de musiciens particulièrement talentueux qui méritent d'être cités. Il y avait Lionel Wecky à la guitare, Terence Blanchard à la trompette, James Genus à la basse et Justin Tyson à la batterie. Chacun d'eux soutenait les ornementations d'un insatiable patriarche, l'illustre Herbie Hancock. Herbert Jeffrey Hancock est né le 12 avril 1940 à Chicago. Comme tous les gamins noirs de son époque, il évolue dans une société américaine qui ne parvient toujours pas à s'affranchir du poids historique de l'esclavage et de la ségrégation raciale. Et bien qu'il vive au nord des États-Unis, où le racisme est moins violemment exprimé, il réalise très vite qu'il faut se distinguer et jouer des coudes pour exister dans l'Amérique des années 40 et 50. Il a alors un choix à faire. La communauté noire n'est visible qu'à travers ses athlètes et ses musiciens. Il faut donc briller dans l'une de ces deux disciplines pour avancer à grands pas et donner un sens à sa vie. Le petit Herbie Hancock s'imagine sportif de haut niveau, mais les circonstances familiales vont le pousser vers un piano.
The reason I was pushed into music is because I have an older brother.
J'ai décidé d'être musicien à cause de mon grand frère. Il était plus grand, plus vieux que moi. Il pouvait faire des choses dont je n'étais pas capable. Par exemple, je ne pouvais pas porter une batte de baseball. Mes mains étaient trop petites. Il ne me laissait jamais jouer dans son équipe, sauf si celle-ci menait largement au score. Et ça m'énervait. C'est pourquoi, à l'âge de 7 ans, mes parents m'ont acheté un piano. Mes frères et sœurs prenaient également des cours, mais pour la première fois, nous étions tous au même niveau. La taille de mes mains n'était plus importante. J'ai vite oublié mes déboires dans le sport pour me consacrer à la musique.
I didn't have to worry about my hands being too small or any of that. You know, and so I completely forgot about the sports. And I concentrated on music.
Faute de pouvoir devenir champion de baseball, le jeune Herbie Hancock se découvre une passion pour la musique et notamment le jazz. De formation classique, il était capable de jouer à seulement 11 ans le premier mouvement du concerto numéro 5 de Mozart. Il s'aventure pourtant sur un terrain musical plus périlleux, l'improvisation. Bien qu'il ait le plus profond respect pour les grands compositeurs européens que sont Ravel ou Debussy, l'expressivité jazz d'Oscar Peterson ou de McCoy Tyner, le pianiste de John Coltrane, le fascine. Et progressivement, un souffle de liberté guide ses choix artistiques et l'encourage à persévérer dans cette voie. En quelques années, Herbie Hancock devient un instrumentiste accompli. À 22 ans, il fait paraître son premier album, Taking Off. À 23 ans, Miles Davis le repère et lui propose de le rejoindre sur scène. C'est le début d'une aventure qui durera 8 ans et d'une amitié de 30 ans. De 1963 à 1970, Herbie Hancock épouse la destinée d'un personnage haut en couleur, visionnaire et déjà controversé, le célèbre Miles Davis. Leurs échanges harmoniques en public sont lumineux. Les deux hommes se comprennent sans se parler et leur désir commun de tenter de nouvelles expériences les rapproche constamment. À la mort du trompettiste en septembre 1991, Herbie Hancock réalisera soudainement combien leur amitié et leur intense collaboration ont façonné ses propres convictions musicales. Ce fut vraiment une date importante pour moi. Il eut une influence énorme sur moi et sur le groupe auquel j'ai participé de 1963 à 1970. Je pense que son influence a dirigé, a transformé toute la musique que j'ai produite depuis. Il représente la base de ce que je suis aujourd'hui. Puis il y eut un autre événement, l'hommage que nous avons rendu à Miles peu de temps après sa mort, avec Tony Williams, Wayne Shorter, Ron Carter et Wallace Roney. Ce fut une tournée de 5 mois et demi, la plus longue de ma carrière, une tournée mondiale. Quel plaisir ce fut de jouer à nouveau avec ces musiciens. Voilà, c'était le dernier arrivé. Il prenait la place de Miles à la trompette. C'était comme une réunion d'anciens camarades animés par la même complicité. Au tournant des années 70, Herbie Hancock sent le vent tourner. Il sait que le combat des Afro-Américains doit résister à l'érosion du temps. Les grands orateurs d'antan ont disparu. Il faut donc affirmer son identité par d'autres moyens. Il choisit donc de s'intéresser à la culture de ses ancêtres, se passionne pour les langues africaines et notamment le swahili, et s'amuse avec les polyphonies des pygmées de Centrafrique sur une version actualisée de Watermelon Man. « Nous sommes en septembre 1973. Herbie Hancock surprend ses contemporains en faisant entrer des sonorités synthétiques dans le monde du jazz. Quelle audace, salueront ses plus fidèles partisans. Quel scandale, crieront les gardiens du temple. Qu'importe les commentaires, Herbie Hancock ne veut pas s'enfermer dans une forme académique de son expression artistique. Comme son ami et partenaire Miles Davis, il compte sur son inspiration pour dynamiter un espace jazz trop exigu à ses yeux. Il réinvente même ses œuvres passées comme pour donner une nouvelle jeunesse à des compositions qu'il juge déjà trop poussiéreuses. Ce sera le cas de Cantaloupe Island qui l'électrise dans un jazz funk bouillonnant 15 ans après sa création. Utilisant les outils les plus sophistiqués de l'époque, Herbie Hancock apparaît alors comme un chercheur, un esprit vif qui accélère le temps et bouscule le rythme de ses homologues jazzmen. Pendant près de 10 ans, il fera scintiller une nouvelle forme de jazz, matinée de funk, de soul et parfois de hip-hop. Cette fusion des styles le hissera au rang des plus importants innovateurs face au conservatisme de ses aînés. Il enfoncera le clou en 1983 avec un titre totalement inattendu. Rocket, une œuvre étonnante, un concept, le caprice miraculeux d'un musicien que rien n'arrête et qui fera grincer les dents des plus ardents défenseurs de la tradition jazz. Qu'à cela ne tienne, Herbie Hancock n'en est pas à sa première volte-face et ne s'inquiète pas outre mesure des attaques virulentes que suscite cet ovni musical.
It was seen as a concession on my music to me. You know, to me it was a direction that I was very excited about.
Ce n'était pas une concession pour moi, c'était une nouvelle direction musicale que j'expérimentais. Mais il ne faut jamais oublier que le rock, le rhythm and blues, le gospel, le jazz ont les mêmes racines. En tant que noir américain, tout cela fait partie de ma culture, ou plus encore, d'une culture planétaire. Lorsqu'on parle de culture, on parle d'humanité. Chaque être humain se reconnaît à travers un genre musical. Il m'est donc impossible de décréter que telle ou telle musique a plus de valeur qu'une autre. Je ne fonctionne pas ainsi. Ce que je fais passe avant tout par le feeling.
I don't think of it that way, you know. For me, it's part of all of those things that I do are part of what I feel.
Après 10 ans de slalom techno-jazz, Herbie Hancock, désormais célébré dans le monde entier, peut sereinement revenir à ses premières amours. Si le jazz inonde à nouveau les compositions du pianiste, ses oreilles continuent de chercher la nouveauté. À l'écoute des transformations stylistiques des années 80 et 90, Herbie Hancock flirte toujours avec la pop et n'hésite pas à adapter le répertoire de Prince, Babyface ou Nirvana, dont il ne mésestime pas l'impact sur la jeune génération. Et quand on lui demande quels sont ses goûts musicaux, son esprit frondeur refait surface.
Who do I listen to? No one. I usually turn off the radio.
Qui j'écoute ? Personne. Généralement, je coupe la radio. Je regarde la télévision. Non, sérieusement, il y a des gens que j'adore. Sting, Peter Gabriel pour la pop musique, Jack DeJohnette, John Scofield pour le jazz, sans oublier Les Disparus, Miles Davis, John Coltrane. En fait, tous les gens qui m'influencent, y compris James Brown.
So many people that influence me. You know, James Brown too, I love James Brown.
James Brown, le cœur battant de l'Amérique noire il y a 50 ans, dont se réclame Herbie Hancock, profondément attaché à la valeur patrimoniale de la soul music, une forme expressive qui anime depuis des décennies le quotidien des Afro-Américains. Il n'est donc pas étonnant qu'à travers ses nombreux albums, Herbie Hancock fasse le choix d'inviter quelques légendes de l'art vocal pour insuffler cette âme noire dans son répertoire. C'est ce qu'il fit en 1998 avec Stevie Wonder pour l'album Gershwin's World.
I chose to use singers that were not particularly connected with jazz.
J'ai choisi de faire appel à des chanteurs qui n'ont pas de lien direct avec le jazz. Je voulais créer un album qui sorte de la tradition jazz, qui surprenne le public et qui puisse sonner différemment. Il se trouve que Stevie Wonder est un bon ami. Et même s'il connaît l'univers du jazz, il conserve une certaine distance musicale à l'égard des jazzmen. Ce qui m'intéressait en lui, c'est sa flexibilité. Nous avons enregistré St. Louis Blues de W.C. Handy et je voulais insuffler l'humeur soul funky de sa voix dans cette composition. Stevie a tellement été emballé qu'il a tenu à travailler à mes côtés sur l'arrangement de ce morceau. Il aimait beaucoup cette idée de remanier un classique du patrimoine noir.
St. Louis Blues written by W.C. Handy. So Stevie actually helped me with the arrangement. And I think he liked the idea of having a new way to do this song.
St. Louis Blues, Herbie Hancock et Stevie Wonder sur l'album Gershwin's World, une production audacieuse du jazzman qui avait à l'esprit les études classiques de son enfance. Le compositeur George Gershwin faisait partie de cet univers studieux dans lequel le petit Herbert Jeffrey Hancock évoluait jadis face à son pupitre d'apprenti pianiste.
My earliest recollection of George Gershwin is seeing a piece of sheet music. What is it, partition? In the
Mon premier souvenir de ce compositeur, George Gershwin, c'est une portée musicale, une partition posée sur le pupitre de mon premier piano. J'avais 7 ou 8 ans, je ne me souviens pas vraiment bien. Je pense qu'il s'agissait du titre « Unbreakable You ». Par contre, je ne me souviens plus du tout du jour où j'ai entendu pour la première fois sa musique. Cependant, je suis certain de l'avoir entendu avant d'avoir lu cette fameuse partition. C'était, de toute façon, avant l'âge de 10 ans.
Younger than 10 years old.
Unbreakable You, George Gershwin par Herbie Hancock, une pièce maîtresse qui a marqué la mémoire vive de notre invité du jour. Il faut dire que George Gershwin est pour nombre de musiciens noirs américains le symbole d'une ouverture culturelle manifeste. Son opéra Porgy and Bess, présenté à Boston en 1935, fut sans doute l'une des étapes majeures vers l'émancipation des noirs américains. Herbie Hancock s'est-il reconnu dans cette rébellion artistique d'hier? Partage-t-il l'élan contestataire de son illustre prédécesseur? La question reste posée. Herbie Hancock est un caméléon, comme il le clamait déjà en 1973 avec les Headhunters, Chameleon. Mais ce drôle d'animal ne se contente pas de se fondre dans le tableau, il crée sans cesse de nouvelles couleurs et ne se retourne jamais sur le passé.
There are some things that I could have done better.
Il y a des choses que j'aurais pu améliorer, mais je ne regrette rien. J'ai appris de mes erreurs. La chose la plus importante dans la vie, c'est de savoir tracer sa route à travers les obstacles. Il faut tirer profit des événements pour grandir et se développer.
With no regrets, you know, by really using any of the things that happen for your own growth, your own development.
The big man arrives. Disco dancers greet him. Plain clothes cops greet him. Small town big man, fresh lipstickless name. Sophomore jive from victims of typewriters. The band sounds like typewriters. But the big man, he's not listening.
Peut-être avez-vous reconnu la voix de Tina Turner, conviée en 2007 sur l'album River de son ami Herbie Hancock. Outre le fait que ces deux immenses personnalités ont quasiment le même âge, une vision du monde les rapproche. Tous deux bouddhistes, leurs aspirations à voir un monde en paix, unis et solidaires, guident leurs choix artistiques et nourrissent une camaraderie sincère. L'humanité de ces grands artistes les pousse à constamment aller de l'avant et à envisager des projets toujours plus audacieux. En 2012, Herbie Hancock, devenu ambassadeur de bonne volonté auprès de l'UNESCO, se dit que ce nouveau statut peut lui permettre de rendre encore plus visibles et palpables les vertus du jazz. Il invente donc le Jazz Day, ou Journée internationale du jazz, qui désormais, chaque 30 avril, invite les capitales du monde entier à organiser des concerts, événements, ateliers, colloques, jam sessions autour du jazz. Depuis la première Journée internationale du jazz à Paris, le 30 avril 2012, d'autres grandes villes ont suivi l'exemple à travers la planète, Istanbul, Osaka, Washington, La Havane, Melbourne, Saint-Pétersbourg, en accueillant des musiciens de tous horizons, de Femi Kuti à George Benson, en passant par Aretha Franklin, Richard Bona, Chucho Valdés, Marcus Miller, Yuma Sekela, Gregory Porter, Tania Maria, Oumu Sangari et des dizaines d'autres. Herbie Hancock mit à profit son carnet d'adresses pour développer ce concept de communauté de jazz universelle qu'il appelle de ses voeux depuis bien longtemps. Vous avez bien reconnu la formidable voix de la reine du Wassoulou, Oumu Sangaré, invitée d'Herbie Hancock sur le titre Imagine de John Lennon en 2010. Notez que Oumu Sangaré, très présente cet été en Europe, sera de retour en France au mois de septembre. Vous pourrez l'applaudir à Strasbourg, puis Marseille, Nancy, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Nîmes, Reims, jusqu'à la fin de l'année 2022. Quant à Herbie Hancock, il poursuit inlassablement son tour d'honneur. Ses prochains concerts auront lieu à Joint-les-Pins, Marseille, Sète, où nous nous rendrons prochainement pour nous en faire l'écho et concocter de nouveaux reportages. Herbie Hancock se dirigera ensuite vers l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark, l'Écosse, l'Irlande, etc., etc. L'infatigable maestro est un exemple pour nombre de ses héritiers et disciples. Inspirons-nous d'ailleurs de ces mots sages. La musique est un don pour l'humanité, un message de liberté et d'espoir. Ne baissons pas les bras. Enregistré au 41e Festival Jazz à Vienne le 12 juillet dernier, c'était Herbie Hancock en quintette devant les 7000 spectateurs du Théâtre Antique de Vienne. Merci aux équipes de ce festival historique de nous avoir offert cette petite exclusivité pour clore cette épopée estivale fort révérencieuse. Merci à Nathalie Laporte pour son investissement constant dans la réalisation de cette émission, quelles que soient les conditions. Et merci de nous rester fidèles. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.
Merci.